même qui avait ensorcelé Bussy parce que sa propre sœur avait été malmenée par l'abbé. Sa maison au sol de terre battue ne différait en rien des autres maisons paysannes. On n'y voyait aucun objet étrange. Son plus proche voisin, mu autant par la crainte que par la bienveillance, lui prêtait pour l'hiver une chambre au-dessus de son étable, où elle dormait mieux, profitant de la chaleur des bêtes. Les gens, d'ailleurs, l'aimaient bien, et jusqu'au curé de la paroisse. On ne se souvenait pas qu'elle eût jamais jeté de sort maléfique. Elle avait au contraire débarrassé plusieurs troupeaux des esprits malins qui les avaient infestés, les faisant tourner en rond au pâturage jusqu'à l'épuisement, ou les précipitant à la rivière. C'était une toute petite femme vêtue de noir, fichue robe, et aussi un châle d'une belle étoffe dont on devinait qu'il lui avait été offert par quelques dames des environs. Ses gestes, sa voix étaient très doux, et seuls ses grands yeux bleus, parce qu'ils étaient sans âge et aussi trop rapprochés, pouvaient inquiéter. Au jeune Courcial, qui l'interrogeait sur le sort de Bussy, elle répondit à peine. Damien crut comprendre qu'elle se plaignait que le temps passé eût mis le maléfice hors d'atteinte, l'eût fait échapper non seulement à ses auteurs, qui étaient morts, mais à leurs héritiers. Il se pouvait qu'il produisît ses effets encore longtemps sans remède. Elle en parlait à mots couverts, avec une sorte de respect. C'était le sort le plus grave qu'elle eût connu, et elle le croyait désormais trop fort pour elle. Elle lui recommanda simplement le silence. Peut-être le maléfice, à force d'être de propos délibérés, ignorés, disparaît-il de lui-même. C'était la seule défense possible, et la dernière. À Bussy d'ailleurs, les paysans n'en parlaient pas, sauf à de certains moments, quand l'inquiétude, l'angoisse même, remontait à la surface, se propageant en cercles concentriques. Alors l'agitation des esprits devenait presque visible, modifiant les comportements, provoquant des crêles. Damien offrit à la sorcière un panier de lapins braconnés la veille et la quitta, à la fois déçue et apaisée. La nuit était tombée. On entendait le briolage d'un laboureur sur son dernier sillon. Il prit le chemin du retour. Ainsi dans le pays rien n'arrivait. Ce fut alors que Nathanaël choisit de s'en aller. Il se fit conduire à la gare avec un léger bagage, après avoir fait préparer Villet comme pour une longue absence. Personne ne s'en étonna. Lui-même n'eut aucun de ces gestes ou même de ces regards qui eussent pu intriguer, une attention soutenue pour un parterre de roses, un sursaut à la grille lorsque au rythme de la voiture la haie semble retomber comme un rideau de théâtre sur le décor de la maison. Seul le chef de gare fut surpris que Nathanaël, sans se déganter, lui serra la main. Au bout de 15 jours, il n'était pas revenu, et nul n'en avait de nouvelles. Charles-Pierre apprit de son fils, qui le tenait de Marie-Antoinette, le départ de son ami. C'était au cours d'un dîner dans l'appartement du libraire, au-dessus et au milieu des livres. On y avait beaucoup parlé de la folie. Il y avait là le Normand, Klein et un jeune homme que Klein avait connu à Sainte-Anne où il suivait en amateur des cours de psychiatrie et qui s'appelait Pollan. La conversation roula sur Nathanaël. Les avis divergeaient. Pour le Normand, il était simplement allé passer 15 jours chez des cousins inconnus du Périgord. Pour Klein, il avait voulu revoir l'Égypte. Pour Pollan, qui s'exprimait d'une voix sourde en regardant ses mains, il fallait le chercher dans une petite gare du Berry, où il s'était sûrement, comme Tolstoï à Yasnaya Polyana, caché pour mourir. À ces mots, Charles-Pierre, pour la première fois depuis longtemps, fut bien près de pleurer. Augustin remarqua le brusque chagrin de son père et jeta à Pollan un regard de reproche. Sans le vouloir, peut-être avait-il eu raison. Ce n'en était que pire, ce mot jeté au hasard et qui tombait juste. À ce moment, Nathanaël venait à peine de s'endormir sur un petit lit de fer, un manteau gris jeté sur lui le protégeant mieux du froid que la mince couverture des moines. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas ressenti cette angoisse diffuse qui le prenait toujours au moment de s'endormir, et aussi mais moins souvent, au réveil lorsqu'il se réveillait tôt et le seul remède qu'il connut à cette angoisse de 6h30, comme il la nommait, c'était de la prendre de vitesse, et en précipitant les premiers gestes quotidiens, le café, la promenade, de rendre un ordre à ce monde confusément entrevu à son réveil et qui lui avait paru en manquer. et à lui-même par conséquent, ce qu'il fallait de ses. Il était sûr ce soir-là que cette angoisse matinale lui serait épargnée désormais, tout comme l'angoisse du coucher. De même, toutes les inquiétudes moins profondes, en tout cas plus fugaces qui avaient empoisonné sa vie, allaient enfin disparaître, et l'ennui de devoir jouer un rôle, tenir un rang, exister, était déjà loin derrière lui. Alors qu'il s'endormait, il s'était laissé envahir par ce bien-être qu'il avait connu plus jeune, le bien-être des jours de pluie lorsqu'une femme dont on aime la présence s'occupe en silence, tout prêt à des travaux indifférents, ou le bien-être des bateaux lancés pour longtemps sur la mer et où l'on peut choisir, plusieurs fois par jour, entre les ponts tout près du ciel, offerts au vent immense des commencements, et la cabine d'acajou en forme de cube où tout grince, et où la lampe en cuivre vissée à la table éclaire les livres qu'on emporte avec soi. Après 40 ans, la chartreuse du Mont-Dieu n'avait pas changé. Un vallon perdu des Ardennes, un cul-de-sac de sapins épais, une petite rivière dans une plaine herbeuse où quelques grands arbres donnent de l'ombre aux bêtes, et qui va s'élargissant vers le sud. Appuyé contre la forêt et ouvert sur la plaine, quelques corps de bâtiments rebâtis avec patience au fur et à mesure des guerres, des invasions, dans le même style, sobre, réduisant à presque rien les goûts de chaque époque. Et ces édifices qui d'un côté se fondent par la couleur et les volumes dans le paysage, d'un autre paraissent prendre leur distance avec lui, ne cèdent rien, font.